Tout à coup, j'entendis au-dessus de ma tête des pas de chevaux et le cliquetis des fourreaux de sabre heurtant contre les étriers et les éperons. Évidemment, c'était notre escadron. Je voulus crier, mais pas un son ne sortit de ma gorge. Sans doute, dans ma chute, je m'étais brisé la poitrine. Figurez-vous ma situation. J'entendais les voix de nos gens, je les reconnaissais, et je ne pouvais les appeler à mon aide. Le vieux Wagner disait, « S'il m'avait laissé faire, il aurait vécu pour être colonel. » Bientôt, le bruit diminua, s'affaiblit. Je n'entendis plus rien. Au-dessus de ma tête pendait une grosse racine, et j'espérais, en la saisissant, me guider sur la berge. D'un effort désespéré, je m'élançai, et la racine se tord et m'échappe, avec un sifflement affreux. C'était un énorme serpent. Je retombai dans l'eau. Le serpent, glissant entre mes jambes, se jeta dans la rivière, où il me sembla qu'il laissait comme une traînée de feu. Une minute après, j'avais retrouvé mon sang-froid et cette lumière tremblotant sur l'eau n'avait pas disparu. C'était, comme je m'en aperçus, le reflet d'une torche. À une vingtaine de pas de moi, une femme emplissait d'une main une cruche à la rivière et de l'autre tenait un morceau de bois résineux qui flambait. Elle ne se doutait pas de ma présence. Elle posa tranquillement sa cruche sur sa tête et sa torche à la main disparut dans les roseaux. Je la suivis et me trouvai à l'entrée d'une caverne. La femme s'avançait fort tranquillement et montait une pente assez rapide, une espèce d'escalier taillé contre la paroi d'une salle immense. À la lueur de la torche, je voyais le sol de cette salle, qui ne dépassait guère le niveau de la rivière, mais je ne pouvais découvrir quelle en était l'étendue. Sans trop savoir ce que je faisais, je m'engageai sur la rampe après la femme qui portait la torche, et je la suivis à distance. De temps en temps, sa lumière disparaissait derrière quelques anfractuosités de rochers, et je la retrouvai bientôt. Je crus apercevoir encore l'ouverture sombre de grandes galeries en communication avec la salle principale. On eût dit une ville souterraine avec ses rues et ses carrefours. Je m'arrêtai, jugeant qu'il était dangereux de m'aventurer seul dans cet immense labyrinthe. Tout à coup, une des galeries au-dessous de moi s'illumina d'une vive clarté. Je vis un grand nombre de flambeaux qui semblaient sortir des flancs du rocher pour former comme une grande procession. En même temps, s'élevait un chant monotone qui rappelait la psalmodie des Arabes récitant leurs prières. Bientôt, je distinguai une grande multitude qui s'avançait avec lenteur. En tête, marchait un homme noir, presque nu, la tête couverte d'une énorme masse de cheveux hérissés. Sa barbe blanche, tombant sur sa poitrine, tranchée sur la couleur brune de sa poitrine tailladée de tatouages bleuâtres. Je reconnus aussitôt mon sorcier de la veille, et bientôt après, je retrouvai auprès de lui la petite fille qui avait joué le rôle d'Eurydice avec ses beaux yeux, ses pantalons de soie et son mouchoir brodé sur la tête. Des femmes, des enfants, des hommes de tout âge les suivaient. Tous avaient des torches, tous avaient des costumes bizarres à couleurs vives, des robes traînantes, de hauts bonnets, quelques-uns en métal, qui reflétaient de tous côtés la lumière des flambeaux. Le vieux sorcier s'arrêta juste au-dessous de moi et toute la procession avec lui. Il se fit un grand silence. Je me trouvai à une vingtaine de pieds au-dessus de lui, protégé par de grosses pierres, derrière lesquelles j'espérais tout voir sans être aperçu. Au pied du vieillard, j'aperçus une large dalle à peu près ronde, ayant au centre un anneau de fer. Il prononça quelques mots dans une langue à moi inconnue, qui, je crois en être sûr, n'était ni de l'arabe ni du kabyle. Une corde avec des poulies suspendues je ne sais où tomba à ses pieds. Quelques-uns des assistants l'engagèrent dans l'anneau, et à un signal, 20 bras vigoureux faisant effort à la fois, la pierre, qui semblait très lourde, se souleva, et on la rangea de côté.